Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le président d'Essilor, Xavier Fontanet, qui vient de faire paraître aux belles lettres « Si on faisait confiance aux entrepreneurs » avec un sous-titre « L'entreprise française et la mondialisation ». Président, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps précieux.
Merci beaucoup d'avoir invité, je suis très sensible.
De président et de grand voyageur, j'ai lu à quelque part.
Oui, ça continue. Oui,
que vous faisiez 500 000 km par an.
C'est 10 ans au pic, oui, j'ai fait 500-600 ans au pic hein, pendant une dizaine d'années. Là, maintenant, ça se calme quand même, il ne faut pas exagérer.
Voilà. Alors, vous avez passé récemment la main à votre bras droit, Hubert...
Hubert Sagnière, oui.
Hubert Sagnière, qui a pris la direction opérationnelle de l'entreprise, complètement. Et vous avez donc décidé de rompre, en quelque sorte, à votre réputation d'homme le plus discret du CAC 40 pour vous mettre au service, on va dire, d'une noble cause, c'est-à-dire celle de tenter de réconcilier, mais c'est une grande tâche, hein, les Français avec l'entreprise, l'économie de marché et bien entendu les grands patrons.
Ben oui, alors écoutez, c'est arrivé tout naturellement, donc j'ai eu beaucoup plus de temps libre, hein, puisque la présidence d'un conseil, c'est pas opérationnel. Et très naturellement, j'ai commencé à faire des conférences, hein, des conférences que j'avais en retard, puisque j'avais promis, mais je ne pouvais pas le faire à cause de mes emplois du temps. Et puis, il y a plusieurs éditeurs qui sont venus me voir à la fin des conférences, me disant « Monsieur Fontanet, il faut absolument mettre ça sur un livre, absolument ». Et donc, finalement, j'ai traité avec des belles lettres un de mes amis, Bernard Deforge, que je connais bien, et je me suis dit « Ben voilà, au fond, allons-y ».
Vous êtes donc très attaché à cette noble cause, et donc votre ouvrage en est parfaitement l'illustration. Je voudrais quand même, avant que nous rentrions dans le sujet... vous présenter, enfin en tout cas, rappeler quelques éléments de votre parcours. Alors vous êtes un fils d'eux, comme on dit.
Votre père,
le ministre Joseph Fontanet, a marqué toute une période et hélas a disparu dans des circonstances tragiques. Vous êtes présenté comme un patron chrétien, patron catho, comme on dit.
Oui, je ne l'affiche pas, mais je ne le cache pas.
Très bien. Nous y reviendrons aussi, peut-être. Alors, vous avez une formation d'ingénieur, pont et chaussée, du MIT, par ailleurs, et vous avez commencé votre carrière au BCG, j'imagine, comme consultant. Donc
oui, Boston Consulting Group, ça m'a beaucoup influencé.
Puis, vous avez dirigé un certain nombre d'entreprises, à commencer par Beneteau, avant de rejoindre Essilor, comme DG en 1996, puis... PDG, donc de 1996 à 2010. Et c'est sous votre impulsion que ce groupe est devenu le champion mondial de son secteur d'activité et qu'il a, si j'ai bien noté, multiplié par 100 son chiffre d'affaires au cours des trois dernières décennies à 3 milliards d'euros.
Oui, c'est ça. On fait 3,8 milliards aujourd'hui, on va faire 3 milliards.
Presque 4 milliards.
De 30 millions en 37 ans, de 30 millions à 3 milliards.
D'accord. Voilà. Alors, vous êtes par ailleurs très actif dans les instances patronales, en particulier au MEDEF, et vous avez présidé le comité d'éthique.
Oui, alors je ne suis plus au MEDEF. J'ai présidé le comité d'éthique du 2003-2007.
Voilà,
ceux qui ont rédigé la fameuse charte en 2003.
La charte
qui est toujours valable, finalement. Tout avait été vu en 2003.
D'accord. Bah, écoutez, on aura l'occasion d'en dire un mot. Et puis, vous avez aussi participé à des réflexions plus économiques, donc en participant aux deux dernières commissions Attali, et notamment à la commission Attali 2, dont le rapport a été remis au président de la République il y a très peu de temps. Alors voilà, pour les éléments de présentation, très très rapide, quelques mots sur votre ouvrage avant de poser les questions. Alors, votre parution, vous le disiez tout à l'heure en aparté, a déjà reçu un accueil particulièrement chaleureux, aussi bien du grand public comme du côté des grands médias, où on vous a beaucoup vu ces derniers temps. Par contre, la grande surprise, c'est qu'effectivement, vous vous inscrivez totalement à contre-courant de la petite musique d'ambiance que l'on entend un petit peu partout dans notre société.
C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs.
sur le déclinisme, le pessimisme et les peurs, notamment de la grande entreprise. Alors votre témoignage est donc tout le contraire. C'est une grande leçon d'optimisme, sans naïveté excessive, par contre.
On ne peut pas être naïf quand on a fait beaucoup de business pendant 40 ans.
D'accord. Et bonne surprise, vous prenez une liberté de ton, à la fois sur le fond et en étant totalement transparent, puisque j'ai bien noté qu'à quelque part, vous disiez que scientifique de formation, je ne sais pas écrire, mais je suis partisan d'enseigner les lettres, le langage et le choix des mots. Alors, vous êtes d'ailleurs fait aider par deux grandes plumes du journalisme, qui sont donc Gérard Bonos et monsieur...
Jacques Barrault.
Et Jacques Barrault, voilà. C'est ça, hein, qui tous les deux sont particulièrement connus, en tout cas pour faire un ouvrage particulièrement consistant. Alors, le thème central de votre ouvrage, c'est la confiance, faire confiance aux entrepreneurs. Alors, c'est quoi et pourquoi faire confiance aux entrepreneurs ?
Alors, effectivement, j'ai voulu faire partager mon expérience personnelle. Bon, je suis peut-être quelqu'un d'optimiste et de positif, mais le mode de management que j'ai toujours eu et que j'ai toujours rencontré dans les entreprises, que ce soit Beneteau, les Wagons-Lits ou Essilor, c'est l'idée de confiance. C'est-à-dire que quand les individus sont mis dans un environnement de confiance, dans lequel ils ont confiance, eh bien, ils font des choses merveilleuses. Et donc, moi, je m'inscris en faux. Au moins, je n'ai pas du tout vécu ce qu'on voit dans les journaux, l'entreprise qui est une espèce de prédateur, qui manipule les clients et qui exploite les employés, et qui parfois trompe l'actionnaire, finalement. Et donc, je n'ai jamais vécu ça, puisque j'ai toujours vécu des entreprises qui avaient des très longs horizons de temps, qui avaient des produits ou des services qui vraiment faisaient du sens, et qui, en général, avaient des bonnes positions concurrentielles, ce qui fait qu'on ne manage pas, on ne dirige pas les gens dans des très belles entreprises avec la trique. Des gens très doués, en fait, il faut des managements d'inspiration, de confiance. Et vous savez, quand vous êtes au niveau du leadership mondial, il faut être très bien dans sa peau. Et je prends toujours l'exemple du tennis, chez Roger Federer, qui pour moi est une véritable idole. Bah, son entraîneur n'est pas avec un martinet et ne lui tape pas dessus quand il a perdu un jeu. Donc, parce que s'il faisait ça, il partirait vite, il changerait de... Bon. Et donc, en fait, on se rend bien compte que le monde concurrentiel est difficile, il faut des gens bien dans leur peau, soutenus intellectuellement et moralement. Et c'est plutôt ça le style de management qui est celui des Essilor, mais que j'ai vu pratiquer dans beaucoup d'entreprises. Et ça, je voulais l'expliquer, parce que ça va contre-courant de tout ce qu'on raconte. Oui.
Alors justement, vous prenez comme cœur d'exemple de votre ouvrage l'exemple d'Essilor. Alors, Essilor, c'est une grande aventure.
C'est une aventure.
C'est une histoire.
Oui, c'est une histoire.
C'est
oui.
une histoire et vous en avez fait un champion.
Enfin, en tout cas, j'en ai largement fait, bien sûr, passé. J'ai hérité. Vous savez, en fait, il faut faire attention à ne pas trop personnaliser non plus les directions d'entreprise. Ce sont d'énormes ensembles qui ont des longues histoires. Donc, en fait, les anciens vous passent un témoin et puis, vous essayez de courir le plus vite possible et puis après, il faut passer le témoin au suivant. Alors, on a bien sûr une influence parce qu'on peut, mais il ne faut pas non plus trop grandir tout ça. Et je crois qu'il y a la notion de culture d'une entreprise qui est une chose qui dépasse les individus. C'est aussi un concept auquel réfléchir. Parce que la culture d'entreprise, la culture de confiance, bien sûr, on contribue personnellement à le faire, mais c'est quand même des choses qui sont dans les gènes de l'entreprise. Et il y a des très, très belles entreprises. Tous les leaders mondiaux sont en général des entreprises qui ont développé des systèmes de confiance avec le personnel, mais aussi avec les actionnaires, avec les clients.
D'accord. Alors, vous dites, vous jouez collectif d'abord avec votre équipe de direction.
Bien sûr.
Alors, les dirigeants salariés... Aujourd'hui, justement, grâce à votre rapport, apparaissent comme un corps social à part entière, puisque normalement, si j'ai bien compris le rapport du MEDEF, enfin votre rapport, les mandataires sociaux ne devraient plus avoir de contrat de travail.
Ah non, alors ça justement, je trouve que c'est une erreur fondamentale. Puisque moi, je me suis inscrit en faux et j'ai demandé d'ailleurs l'explain. Ah. Et d'ailleurs, j'ai été expliqué à Mme Lagarde, à M. Jouyet. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée de ne pas avoir de contrat de travail parce que ça contribue à faire du PDG un mercenaire qui devient quelqu'un dont l'horizon de temps se raccourcit, qui évidemment, étant constamment insécurisé, ne peut pas donner la confiance, parce que comment voulez-vous donner la confiance si vous êtes constamment insécurisé ? Et donc, je ne suis pas d'accord avec cet élément. D'ailleurs, je m'en suis expliqué extrêmement clairement. Et donc, j'ai fait valoir, et d'ailleurs, l'AMF, M. Jouy, a tout à fait compris, et je le remercie beaucoup, parce que, et Mme Lagarde aussi a très très bien compris, tous les deux ont très bien compris, lorsque vous avez quelqu'un qui, depuis très longtemps, est dans la maison, la promotion interne, eh bien, on a plaidé pour la suspension du contrat. Donc, on suspend les contrats, mais l'idée d'arrêter les contrats avait du style « t'es promu, puis t'as plus de job, t'as plus de contrat. Attendez, que va dire l'épouse ?» Et ça va contre la fidélité. Et or, je pense qu'il faut la durée et la fidélité pour créer les grandes choses. Donc, sur ce sujet-là, je m'inscris en faux, sans aucun complexe. Et d'ailleurs, l'AMF a écrit...
Faux par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on a dit. Parce que... sur le rapport.
Rapport. Alors, le rapport a donné le droit à l'explain. J'ai beaucoup insisté pour donner un droit à l'explain. Parce que, si vous voulez, les sociétés, la variété des cas est tellement énorme qu'il faut que le législateur fasse extrêmement attention. Et on ne touche à la loi que d'une main tremblante, disait Montesquieu. Donc, il faut faire extrêmement attention et tenir compte de tous les cas. Mais quand vous avez une entreprise qui fait de la promotion interne, qui fait de la fidélité, le fond de son fonctionnement, quand vous commencez à dire le PDG, il n'a plus de contrat, vous le coupez du corps social, À mon avis, c'est une erreur. Voilà, je
bon,
dis.
D'accord. Bah, écoutez,
hein, vous voyez, donc, je continue, je ne l'ai pas mis dans le livre, ça d'ailleurs, mais on construit les grandes entreprises en cherchant à être dans la vérité, si vous voulez. Hein. Et quand il y a une erreur, il ne faut pas hésiter à le dire. D'ailleurs, l'expérience m'a toujours montré, si alors une société qui a toujours cherché à être dans le vrai, on s'est toujours dressé quand ça ne nous plaisait pas. Et finalement, vous savez, la vérité, la réalité revient toujours. Hein. Mmh. Alors, on peut mettre des mots dessus, mais quand on s'est trompé, ben, on s'est trompé.
Voilà. Alors, j'ai bien noté donc, qu'il faudrait revoir la communication.
Non, il faut laisser le droit à l'explain. Pense qu'il faut dire, voilà la règle normale. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord l'expliquent. Et d'accord. Comme ça, on progresse. Vous savez, d'accord. C'est comme ça qu'on progresse.
D'accord. On parlait de collectif, on parlait donc d'équipe.
Bien sûr, d'équipe.
De la place
sûr.
Des dirigeants salariés, qui donc serait encore en plus maintenant individualisée. Maintenant, on parle des salariés. Alors, dans ce que vous relatez de l'entreprise Essilor, vous soulignez l'attachement que vous avez à l'actionnariat salarié.
Absolument.
Et c'est pour vous, on va dire, l'instrument de motivation numéro un.
Bien sûr. On en revient même à ces histoires de contrat, parce que l'idée était de dire les gens sont très bien payés, il faut qu'il y ait un risque, et le risque, ils vont le trouver dans le fait qu'il n'y a plus de contrat. Mais non, le vrai risque, c'est d'investir son argent dans son entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis très longtemps, remet tout dans l'entreprise. C'est-à-dire que les stock options, quand je les lève, ben je remets tout dans l'entreprise. Je paye les impôts, je remets tout dedans. En fait, la vraie notion de risque, en fait, c'est vraiment de partager la vie de l'entreprise, notamment sous son aspect capitalistique. Et alors, l'expérience des Essilor est formidable parce que c'est extrêmement ancien. Et d'abord, vous transformez l'entreprise quand les collaborateurs sont actionnaires. Hein, parce que ben, c'est un peu chez eux. D'ailleurs, on parle du corps social, j'aime pas trop le mot social parce qu'on a détruit ce très joli terme. Je dis c'est la famille Essilor en fait, on a reconstruit une grande affaire familiale finalement. Hein. On est des enfants sans parents, donc on s'invente un peu les parents. En fait, on investit la grande famille Essilor, mais dans une famille, on met notre capital à risque si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est des beautés de l'actionnariat familial, c'est que les gens savent que les familles mettent l'argent à risque. On a des longs horizons de temps, on n'a pas des horizons de temps financiers. Et donc, je crois que c'est une transformation de l'esprit dans l'entreprise.
Et, pour et ça la, que... part, la part des actionnaires salariés, et de quoi dans...
Alors, pour l'instant, elle est pas très grosse, si vous voulez. On a 9% à peu près en capital.
C'est déjà pas mal.
Et on a 15% en droit de vote, puisque les gens laissent, mais il faudrait beaucoup plus. Alors, le problème que nous avons, c'est que la capitalisation des Essilor est énorme, c'est 11 milliards. Vous voyez, c'est plusieurs fois le chiffre d'affaires. Et donc, nous serions même théoriquement la dernière entreprise à avoir l'actionnaire salarié, tellement l'entreprise est chère. Parce que les salaires, c'est 10% de la capi. Alors, évidemment, dans une affaire de service, c'est très facile de monter un actionnaire salarié, parce que les affaires capitalisent peu. Mais dans une autre qui est industrielle, qui est très, très lourde en capital, en investissement, mais nous pensons qu'on arrivera à 20% de droit de vote, si vous voulez.
Hein. D'accord.
Donc, c'est le but qu'on s'est donné. Alors ça, c'est 20%, ça commence à peser très lourd.
Oui, c'est déjà extrêmement important. Donc, négocier, discuter, être transparent avec les salariés, pour vous, ça n'a jamais été un problème alors.
Pas du tout. Non, au contraire. Je crois que c'est l'aspect important de l'action d'un salarié qui n'est pas qu'une problème de fric, comme j'explique en fait. Hein. C'est un peu contrôler sa destinée. Parce qu'on a les gens au conseil d'administration. Et puis, surtout, c'est une affaire d'information. C'est-à-dire que quand vous avez le personnel qui est largement au capital, bah, le management informe très bien. Et d'ailleurs, vous avez une chose formidable, c'est que deux fois par an, en fait, le management passe devant le personnel et met sa politique au vote. Hein. Alors, c'est complètement, il n'y a aucun aspect légal, c'est uniquement de l'information, mais vote à bulletin secret sur la politique. Et donc, ça oblige le temps des AG du personnel, les dirigeants, de se mettre au service et à l'écoute, mais au service du personnel. Ça dure deux journées par an, mais ça fait énormément de bien parce que ça pousse le management à bien expliquer. Et alors, ça affine les stratégies, du coup.
Alors, je pense que tous les présidents des groupes importants sont, notamment dans le secteur bancaire, mais aussi dans le secteur industriel, vous venez de le dire, sont d'accord pour considérer que l'actionnariat salarié est un moyen de motivation et de compréhension et de management de premier plan. Ce qui est un peu contradictoire par les temps qui courent, c'est les projets à la fois de pénalisation de l'intéressement et de la participation, et aussi le niveau d'imposition des dividendes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la politique publique
Bien sûr. Alors, on se fait l'avocat de cette forme nouvelle du capitalisme, si vous voulez, parce que je pense qu'avec la crise, l'une des conséquences de la crise serait d'aller vers l'actionnaire salarié. On ne sait pas dans les 15 ans qui viennent, si vous voulez, où va aller la valeur ajoutée. Est-ce qu'elle va aller au travail, au capital? Je suis incapable de vous le dire, et je crois que ceux qui pensent savoir où ça va, quelque part, c'est un peu des escrocs intellectuels. Hein. Mais la bonne solution, c'est évidemment de mettre le personnel au capital, parce qu'à ce moment-là, quelle que soit la migration de la valeur ajoutée, les gens s'y retrouvent, si vous voulez. Et vous savez, quand chez Essilor, on discute les augmentations de salaire, on discute aussi les évolutions de l'abondement, qui est la partie qui est Essilor. Mais vous savez, les gens, même au niveau ouvrier, contremaître, ils sont aussi sensibles à l'augmentation de salaire qu'à celle de la modification de l'abondement. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus de richesse si on ajoute l'abondement. Et ça, c'est avancer dans le bon sens. Donc tout ce qui se passe actuellement, on va l'expliquer. Je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. Hein.
Non, c'est ça. Et puis alors, bien évidemment, ce que vous faites, enfin, l'actionnariat salarié, c'est aussi un moyen de faire comprendre et de donner de la culture économique. Et c'est probablement, enfin, on sait que 9 Français sur 10 sont très peu formés en matière d'économie et certainement que...
L'économie de marché, ça s'éprouve.
Ouais, absolument.
C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à enseigner à l'école parce que c'est le risque, si vous voulez. Et le risque, c'est une chose qu'il faut éprouver. On ne peut pas l'apprendre dans un cahier. Il faut avoir soi-même pris un risque tant qu'on ne sait pas ce que c'est, le risque capitalistique, hein, même sur des petites parties de l'économie. Moi, je sais que je m'amuse. Quand j'ai des petits cousins, des petits neveux qui ont 12 ans, 13 ans, je leur offre à Noël des actions, 50 euros.
D'accord.
On achète des bouts d'actions. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait parce qu'ils vivent ça très fort. Ils commencent à lire les journaux. Ils comprennent qu'une entreprise, c'est risqué. Ils comprennent aussi que le bénéfice, la légitimité du bénéfice et le risque qu'on a pris, ce n'est pas une chose mécanique parce que c'est tous les marxistes attaquent en disant qu'il y a la logique du profit. Mais le profit, ce n'est pas logique du tout. C'est tout un art de faire du profit. Et c'est le résultat d'une prise de risque. Hein. Et tant qu'on n'a pas compris ça, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'économie. On ne peut pas l'enseigner d'ailleurs.
Hein. Vous avez répondu, Président, par anticipation à ma deuxième question qui portait sur l'économie. Je crois que là, nos auditeurs ont parfaitement compris cette capacité de pédagogie, de vulgarisation qu'ils retrouveront dans votre ouvrage.
Ben, j'espère.
Qui va donc dans le sens d'une meilleure compréhension.
Tout est simple, en fait. Hein, les choses sont très, très simples.
C'est vrai. Alors, vous avez été, vous l'avez dit tout à l'heure, donc le président du comité d'éthique.
Oui.
Management, éthique, tout ceci est assez proche. Est-ce que l'économie de marché est morale? Et vous répondez en pascalien.
Ben, ça n'a pas de sens. Justement, je crois que les gens qui se posent la question, en général, c'est plutôt des socialistes qui pensent avoir la morale de leur côté parce qu'on ne parle que de générosité. Et donc, on est généreux, on est moral. Et à partir du moment où vous avez la morale de votre côté, ben, de l'autre côté, on est immoral. Alors, c'est une absence de logique complète. Et donc, bien que je sois un ingénieur et pas du tout philosophe, j'explique qu'en fait, il ne faut pas mélanger les genres et il ne faut pas mélanger les ordres. Et vous avez l'ordre de l'économie qui est technique. On dit le capitalisme, c'est efficace et ça crée de l'inégalité, par exemple. Bon. Après, vous avez la notion de la loi. Les lois, c'est les règles que les sociétés se donnent pour vivre. On ne peut pas vivre sans loi. Alors, les règles sont écrites ou pas. Mais enfin, donc, mettons, aujourd'hui, elles sont écrites depuis 1000 ou 2000 ans. Les rois les ont écrites. Hein, Et donc, ben, à ce moment-là, un acte, il est légal ou pas. Et la morale, ou l'éthique, alors moi je suis incapable de vous dire la différence entre l'éthique et la morale, mais c'est très simple. En termes simples, ça ne concerne que les individus. Et c'est des règles qu'on se donne au-delà de la loi. Hein, par exemple, bon, ben, si j'ai un fournisseur, le fournisseur, on a des contrats, on peut changer de contrat tous les 2 ans, par exemple. Bon, la morale ou l'éthique, c'est une règle qu'on se donne en plus en disant ben, la personne est en difficulté, même si légalement je peux le changer, quelque part ce n'est pas très sympa. Et d'ailleurs, si ça m'arrivait, ben, j'aimerais pas qu'on le fasse. Donc, du coup, ben, on donne du temps à la personne pour se reconvertir. Et c'est ça, c'est des règles qu'on se donne en plus. Alors, le capitalisme, non, c'est les capitalistes qui sont moraux ou pas. Mais c'est pas le capitalisme en lui-même, pas plus que le communisme est moral ou immoral. Enfin, c'est des.
Tout à fait.
Ben, alors, on va mélanger les sujets, voilà.
Sur la charte que vous avez fait publier, enfin, à laquelle vous avez contribué. Si j'ai bien compris, enfin, c'était d'ailleurs une association avec l'AFEP.
Voilà, alors en fait, ça a commencé au MEDEF et puis j'ai persuadé l'AFEP de joindre cette charte parce que finalement, il y a beaucoup plus d'affaires cotées à l'AFEP qu'au MEDEF. Donc, c'est devenu la charte de MEDEF-AFEP. Et quand elle a été écrite, c'est à ce moment-là que je suis parti, c'était en 2007. Hein.
Mais enfin, vu de l'extérieur et compte tenu du regard sans concession que porte l'opinion maintenant sur les dirigeants, on peut avoir l'impression que cette charte n'a pas été exactement à la réponse de l'opinion, puisqu'elle a porté, on va dire, pour l'essentiel, sur les moyens d'intéressement et de la rémunération. Or, est-ce que vous ne croyez pas que l'opinion attend, par rapport à, évidemment, quelques cas, qui, je crois que Claude Bébéard disait que les cas en question tenaient sur les
très
deux...
Peu nombreux, les, très peu
très,
nombreux.
Très peu nombreux, oui. Mais néanmoins, bon, ils ont une valeur de symbole. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a peut-être des actes symboliques encore plus forts à apporter ?
L'opinion attendait des piloris. L'opinion attendait qu'on jette la pierre. Hein. Alors, je dois dire qu'effectivement, quand j'étais président, moi, je ne suis pas quelqu'un qui jette les pierres. Je ne suis pas capable, peut-être que c'est une erreur. Mais évidemment, l'opinion attendait de crucifier une ou deux personnes. Bon. Alors, en fait, le vrai sujet, il n'est pas là, cher ami, je vais vous dire. Le vrai sujet, c'est beaucoup plus fondamental. C'est que le pari en 2003 a été le pari de la transparence. C'est le vrai sujet. On savait très bien qu'il y avait des bêtises, on savait très très bien que les bêtises apparaîtraient. Mais le vrai pari, il est au sujet de la transparence, sachant que la transparence sur la durée fait son œuvre. Et moi, je peux vous dire que la transparence a fait son œuvre. Parce que moi, j'ai entendu des gens qui avaient fait les bêtises, ou j'ai entendu des conseils d'administration qui avaient fait les bêtises. Parce que souvent, ça se passe au niveau des comités, des mandataires. Hein. On met le PDG devant, mais c'est souvent le comité. Et les gens ne recommenceront pas. Alors, il y aura forcément,
encore des bêtises, puisque la nature humaine est comme ça. Mais je puis vous dire que l'effet de transparence a fait son œuvre. Et en fait, le vrai sujet, c'est que nous-mêmes, nous avons quand même pris le pari de donner toutes nos rémunérations. Alors après, ben, tout le monde les a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Hein. C'était un très gros effort. Et donc, il faut aussi le regarder. Il ne faut pas qu'on ait de la transparence au voyeurisme, parce qu'il y a quand même eu des cas dans lesquels on ne montre que ce qui ne va pas et on ne parle pas de ce qui va. Hein. Et donc, il faut aussi que l'ensemble devienne relativement réaliste et objectif. Hein. Et puis, il faut savoir après que vous avez tout le problème mondial, parce que d'un côté, un dirigeant est responsable vis-à-vis de la société où le siège est installé. Mais vous avez aussi, on est dans le monde entier. Moi, je peux vous dire, je peux le dire maintenant, dans les roadshows, tout le monde me disait, mais Fontanet, vous n'êtes pas assez payé. Donc, j'étais dans des états complètement fous. C'est-à-dire que vous allez dans les roadshows, et puis les gens vous disent, c'est rien du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis vous arrivez ici, tout le monde dit. Donc, il faut savoir qu'un dirigeant, nous sommes complètement dans le monde, si vous voulez. On est en concurrence des Américains, c'est des Japonais. Et donc, l'équilibre entre la société française et l'ensemble du monde n'est pas toujours évident. Alors, je crois que le sujet, c'est la transparence. Et progressivement, grâce à la transparence, les chances convergeront. Voilà,
oui,
le vrai sujet était
là. Je pense que c'est le vrai sujet, le cœur du sujet était là. Le sens de ma question, c'était de dire, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut, par des actes symboliques, aussi répondre à la partie du questionnement de l'opinion qui porte sur l'exemplarité? Parce que c'est vrai que les rémunérations, l'encadrement des rémunérations, c'est un acte aussi symbolique, mais l'opinion attendait ce qu'elle demande toujours aux élites, à savoir de l'exemplarité.
Oui, alors...
Et sur ce point, il n'y a pas eu d'engagement, en tout cas en termes de communication, très fort.
Oui, mais alors après, si vous voulez, le sujet, c'est que normalement, une rémunération, si vous souhaitez, fixée par la personne qui prend le risque.
Tout à fait.
Donc, c'est normalement l'Assemblée générale qui nomme les administrateurs qui sont responsables de ça, si vous voulez. Alors après, il faut que ce soit les gens qui prennent le risque qui décident. Je crois quand même que les choses ont progressé. Maintenant, vous savez très bien comment les gens sont payés.
Tout à fait.
Vous voyez la moyenne.
Tout à fait.
Vous voyez, alors peut-être c'est évidemment des rémunérations élevées par rapport à la grande majorité des citoyens. Il faut savoir aussi qu'un dirigeant, ça change beaucoup de choses. Hein. Je vous ai expliqué quelques chose d'entreprise, mais entre l'erreur, donc il faut trouver un équilibre, si vous voulez. Bon, il faut voir après que tout ça s'est payé après impôt. Donc, il faut quand même enlever. Il faut diviser par 2,5 tous les chiffres. Il y a eu beaucoup de choses qui a fait mal. C'est que les stock options ont souvent été mal présentées. Ils ont été présentés avec des calculs qui n'étaient pas justes.
On revient toujours à la pédagogie,
et la pédagogie,
culture,
la transparence. Je crois que les choses progressent. Si vous voulez, en synthèse, je crois quand même que les choses sont bien, bien mieux maintenant qu'il y a 7 ans.
D'accord. Alors, un dernier point avant que nous concluions, parce que nous avons déjà largement échangé, et puis il faut laisser le plaisir à nos auditeurs de découvrir votre ouvrage qui est absolument passionnant et qui, je suis convaincu, intéressera le grand public, comme d'ailleurs les étudiants et les gens beaucoup plus, on va dire, pointus ou les experts. Alors, un dernier point, très brièvement, vous faites des remarques, on va dire, très personnelles sur l'État-providence.
Ah oui.
Et lesquelles vous dites que... Tous ces gens qui sont généreux avec l'argent des autres, c'est très bien. C'est à peu près votre expression.
C'est très facile d'être généreux avec l'argent des autres. Non, j'ai dit que j'ai rencontré des gens qui sont convaincus d'avoir été généreux en faisant monter les impôts.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas les leurs. Hein, Donc, ils sont convaincus, au fond, hein, sincères. Bon. Mais ça, c'est pas forcément terrible, parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas après. Hein.
Alors, l'État-providence, il faut de l'État, dites-vous, mais il ne faut pas que l'État devienne la providence.
Voilà. Alors, si vous voulez, on a fait un mauvais procès. Vous avez compris, je suis un libéral sans...
Bien sûr, tout à fait.
D'accord. Et au fond, soyons clairs, il faut oser dire les choses. Bon, je suis un libéral, disons, à les versions Bastia. Hein,
ouais.
Et version entrepreneur, c'est qu'on est des gens qui ont créé de la richesse, on a créé beaucoup d'emplois, on a développé les entreprises. Donc, moi, je pense que plus vous passez du temps, plus vous vous rendez compte que l'économie de marché, c'est finalement... Bon, on n'a pas trouvé mieux, si vous voulez. Alors, il y a des défauts à corriger, mais on n'a pas trouvé mieux. Et donc, personnellement, bon, je pense qu'il faut arriver à changer et à faire évoluer ce qui évolue, mais que le monde est formidable et c'est les entreprises qui vont sauver le pays ou le tirer. Et il faut faire attention parce que l'État, si vous voulez, se prétend comme protecteur, vous voyez, de la mondialisation. Mais alors, le problème, c'est qu'il s'est tellement étendu en France qu'il est très coûteux maintenant. 56% du PIB passe par l'État. C'est plus de la majorité, si vous voulez. C'est le record du monde. On sait maintenant qu'à périmètre... Alors, c'est parce que le périmètre est plus élevé. Hein, on a toute la santé dedans. Mais même si vous enlevez le périmètre de la santé et que vous comparez les pays comme l'Allemagne, on est 10 à 15% plus cher. Tout ça, c'est dans les prix de revient. Et donc, c'est en train de plomber l'économie. La PME qui ne peut pas exporter, elle est mal. Et alors, je n'ai pas aimé le mot providence parce que, au fond, ce mot a été volé à l'Église qui devrait se défendre, d'ailleurs, qu'on utilise le mot providence pour monter les impôts. faut finalement. Alors, l'État rend service. Et là, il y a un vrai problème de compétitivité. Et donc, voilà, donc c'est un petit point. Alors, j'y vais, si vous voulez, le bouquin est sur l'entreprise, et donc je ne suis pas un spécialiste de l'économie de l'État. Donc, j'y vais par petites touches, si vous voulez. Mais je crois quand même qu'il faut aussi que l'État, d'ailleurs, il y pense, hein, fasse un sérieux re-engineering, parce qu'on est en concurrence mondiale maintenant. Donc, nous, on parle des efficacités de tous les pays du monde, des États du monde entier. Hein. Et je pense qu'il y a pas mal de boulot ici. Hein.
Voilà, c'était les convictions de Xavier Fontanet. Pour conclure, je vais prendre la liberté de lire un passage qui, je crois, donne parfaitement le ton de votre ouvrage. « Les Français ont tout pour réussir. Leurs entreprises d'envergure mondiale en sont la preuve. Ils doivent reprendre confiance en eux et dans le système. Ils doivent exorciser leurs démons. Il faut aussi et peut-être surtout qu'ils fassent confiance à leurs entreprises. Si les Français n'arrivent pas à aimer leur entreprise, ils seront en difficulté dans le monde qui vient. » Cela vaut pour les médias et aussi pour la sphère publique. Par leur position mondiale, les entreprises sont les mieux placées pour faire bénéficier des bienfaits de la mondialisation. Si nous leur faisons confiance et si nous avons confiance en nous, alors tout peut changer. Eh bien, Président,
beaucoup,
c'était un grand moment. Merci à vous. Je rappelle donc Xavier Fontanet, si on faisait confiance aux entrepreneurs, l'entreprise française et la mondialisation, aux belles lettres.
Merci
à très bientôt, Président.
Merci bien. Merci.